remue-ménage. Remue-ménage, c'est Ondes Femmes sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans Ondes Femmes, Radio Zone 93.8, Ondes Femmes comme tous les mercredis, qui commence par Remue Ménage en direct sur nos ondes de 17h à 18h30 et que vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, rediffusé à 23h ce soir, le mercredi, à 11h jeudi matin. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose pour le menu de notre émission? Eh bien, comme notre Remue Ménage, cet après-midi, je vous propose de se lancer sur une réflexion que j'aimerais poursuivre sur différents thèmes au fur et à mesure des semaines. C'est celui de la peur. La peur est une chose qui est très présente dans notre vie de tous les jours sous diverses formes. Tout à l'heure, notre amie canadienne, vous le verrez, nous le proposera sous une forme de chanson. Des peurs qui peuvent être très grandes et très petites, il y en a quelques-unes qui sont extrêmement fondamentales. Et j'ai voulu commencer aujourd'hui par justement une de ces peurs fondamentales qui est la peur de mourir. Et souvent, cette peur de mourir est associée, bien sûr, à la peur de souffrir, puisque la mort est rarement dissociée de la douleur. Alors tout à l'heure, nous évoquerons et nous essayerons de réfléchir un petit peu sur la peur de mourir à partir de l'expérience vécue d'une femme que j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années. C'est déjà une vieille histoire, mais je pense que pour elle, ça n'est pas une vieille histoire. C'est une chose qui a dû la marquer. C'est une femme qui a été infirmière au CICR, CICR Comité International de la Croix-Rouge, et qui, lors de ses différentes missions, a été confrontée deux fois à un événement tragique qui l'a rapprochée de très très près de la mort et d'absolument près de la souffrance. Alors tout à l'heure, en compagnie de Marie-Jo Burnier, nous évoquerons la peur de souffrir, la peur de mourir. Mais tout de suite, nous partons en chanson avec Barbara.
Quand ceux qui vont s'en vont aller, quand le dernier jour s'est levé dans la lumière blonde, quand ceux qui vont s'en vont aller pour toujours et à tout jamais sous la terre profonde, quand la lumière s'est voilée, quand ceux que nous avons aimés vont fermer leurs paupières, si rien ne leur est épargné, oh, que du moins soit exaucée leur dernière prière. Ils dorment, s'endorment, tranquilles, qu'ils ne meurent pas au fusil en expirant déjà la vie qu'à peine ils allaient vivre, qu'ils ne gémissent pas leurs cris seuls, rejetés ou incompris, éloignés de leurs frères, qu'ils ne meurent pas en troupeau ou bien poignardés dans le dos, ou qu'ils ne s'acheminent en allant au troupeau de la mort, sans ciel, sans arbre, sans décor, la poitrine. Qui n'avait rien demandé, mais qui savait s'émerveiller d'être venu sur terre, qu'on leur laisse choisir au moins le pays, fut-il lointain de leur heure dernière. Qu'ils aillent donc coucher leur corps dessous les ciels pourpres et or, au-delà des frontières, ou qu'ils s'endorment enlacés comme d'éternels fiancés dans la blonde lumière. « quand ceux qui vont s'en vont aller pour toujours et à tout jamais au jardin du silence. Sous leurs froides maisons de marbre, dans les grandes allées sans arbres, je pense à vous, ma mère. Qu'ils aient pour dernier souvenir la chaleur de notre sourire comme étreinte dernière. Peut-être qu'ils dormiront mieux si nous pouvons fermer leurs yeux. Je pense à vous, ma mère.
Barbara, il est une musique que j'aime beaucoup, qui est la musique que nous propose Angelique Ionatos, cette chanteuse grecque qui est installée depuis un certain nombre d'années déjà en Europe, mais qui continue inlassablement à nous faire partager les richesses et les trésors de la Grèce. Et entre autres, elle nous a fait partager, fait découvrir une poétesse que l'on a trop souvent caricaturée sous un seul angle et qu'elle nous a fait découvrir dans toute la force de la poésie qu'elle a écrite. Et cette poétesse, c'est Sappho de Mytilène. Et tout à fait par hasard, en me prenant sur les quais de la Saône à Lyon, dans une de ces boutiques de ceux qui vendent les livres sur les quais des rivières, eh bien, j'ai trouvé une très ancienne biographie de Sappho de Mytilène, écrit en 1936, voyez si c'est il y a longtemps. Eh bien, en feuilletant les premières pages de cette biographie, j'ai tout de suite vu que l'auteur de cette biographie avait lui aussi voulu découvrir toute la force et toute la richesse de la poétesse et qu'il était loin de vouloir la catégoriser seulement comme Sappho qui a vécu à Lesbos, et Lesbos dont on a retenu que les amours entre femmes. Et Sappho de Mytilène, tout comme Angelique Ionatos, associée à une très belle chanteuse grecque aussi, Nena Venetsanou, nous ont fait découvrir ces belles paroles et surtout ces magnifiques musiques que Angelique Ionatos a composées pour aller avec les chansons, parce que bien sûr on n'a pas retrouvé les musiques que Sappho avait utilisées pour nous faire découvrir sa poésie. Eh bien, peut-être qu'une fois, je vous raconterai, je vous tirerai des extraits de cette biographie que j'ai découvert le long de la rivière pour vous parler de Sappho de Mytilène un peu plus en détail, que nous en avait parlé déjà Angelique Ionatos et Nena Venetsanou. Mais bien sûr, je les laisse d'abord nous raconter ce qu'elles ont découvert en musique.
Που βάσανε και την τρανταξίδια καθώς αγέρας από τα βουνά. Χυμάει μέσα στους δρύς
Angelique Ionatos, Nena Venezanou, Sapfo de Méthylène.
Peur de la grande peur, peur du bonheur, peur de la noirceur, peur de mon cœur, peur de ma soeur, peur de l'ennui, peur du whisky, peur de l'énergie, peur de ce qui est petit, peur qu'on m'envie, jalouse de la gourmande Denise. Jalouse de la perverse Héloïse. Peur d'être belle, d'être rebelle. Peur d'être réelle, peur d'être pucelle. Peur d'être miel, peur d'être conquise. Peur d'être soumise, peur de la maîtrise. Peur de l'analyse, peur de la crise. Jalouse de la vibrante Marise, jalouse de la fière Marie-Louise. Peur de trop jouir, peur de pas jouir, peur de souffrir, peur de pas souffrir, peur d'en mourir.
Peur d'en mourir, et oui, c'est par cette grave question que nous avons décidé de commencer notre réflexion sur les peurs. Comme vous l'avez vu, notre amie québécoise, comme je vous le disais, Pauline Julien, tout à l'heure, nous a posé toutes sortes de peurs. Il y a des petites peurs, des grandes peurs, il y a ceux qui ont peur des araignées, il y a ceux qui ont peur d'être vierge, il y en a qui ont peur d'être jalouse. Bref, il y a toutes sortes de peurs, il y a des peurs qui ont des fondements bien plus graves que cela. Et dans la société dans laquelle on vit tous les jours, hélas, ne nous épargne guère les multiples peurs. Et en ce moment, de nombreuses personnes doivent avoir peur d'être au chômage, doivent avoir peur de mourir sans avoir pu partager une vie avec des enfants, sans avoir pu créer une famille, sans avoir découvert l'amour. Et peut-être tout simplement sans avoir pu manger, sans avoir pu apprendre à écrire, à lire. Il y a sûrement de nombreuses peurs très fondamentales qui préoccupent beaucoup de gens sur la Terre en ce moment. Alors pourquoi avoir choisi d'emblée d'attaquer par celle qui est très certainement la plus forte et qui doit être dans la tête de tout le monde, même si parfois on a tendance à dire « Oh moi, mourir, j'y pense pas, c'est pas mon problème maintenant ». Eh bien parfois, la vie ne nous laisse pas le temps de choisir si on va y penser ou si on ne va pas y penser. Et en l'occurrence, c'est ce qui est arrivé à Marie-Josée Burnier, qui, elle, a été confrontée, sans l'avoir vraiment choisie, à la mort à plusieurs reprises, et en tout cas à deux reprises de façon très grave. Et plus que... Enfin, plus, non, c'est pas ça. Mais assortie à la peur de la mort, elle va nous parler de la peur de souffrir. Et je crois que si beaucoup de gens ont peur de mourir, c'est que beaucoup de fois, ils associent cette peur de mourir à la peur de souffrir qui peut précéder la mort. En l'occurrence, Marie-Josée Burnier nous le dira, elle a eu bien plus peur de souffrir que de mourir, dans la mesure où ce qu'elle a vécu, et vous le verrez dans ses récits, lui a fait penser que si elle mourait, elle mourrait très rapidement, alors que si elle souffrait, elle allait souffrir longuement avant de mourir. Et en l'occurrence, elle n'est pas morte, puisque par chance, puisqu'elle va pouvoir nous raconter, nous témoigner de ces deux événements graves pour elle, mais elle a par contre beaucoup souffert et elle nous parlera du poids de cette souffrance dans sa vie et à quel point la souffrance peut marquer terriblement l'être humain et même jusque très longtemps après avoir dépasser le stade de la maladie, de la blessure, que ce soit une blessure physique ou une blessure morale. Alors Marie-Josée Burnier, qui est-elle et comment l'ai-je rencontrée? Eh bien Marie-Josée Burnier travaillait comme infirmière au CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, cette association qui, vous le savez bien, envoie des tas de gens en mission dans le monde entier, surtout dans les lieux où il y a des guerres, puisque sa tâche est d'essayer d'assister les prisonniers de guerre, d'assister les personnes en danger menacées par les conflits dans le monde. Alors, c'est grâce à Brigitte Manien qui nous a permis de rencontrer Marie-Josée Burnier que nous avons pu demander à Marie-Josée Burnier de nous témoigner sur ce qu'elle avait vécu lors de deux de ses missions. C'était il y a 3 ans. Elle a été 2 fois confrontée à la mort. Une première fois dans une mission qu'elle va passer en Angola et une deuxième fois dans une mission qu'elle va vivre au Mozambique. Alors bien sûr, nous ne pouvons que encore une fois remercier Marie-Josée Burnier d'avoir accepté de revenir sur ces événements qui ne sont bien sûr pas des événements légers et auxquels elle a beaucoup pensé. Elle les évoque de façon assez incroyable parce que vraiment on sent qu'elle a eu, si je puis dire, le temps d'y réfléchir. Alors bien sûr, au moment où les événements se sont produits, elle a eu le temps d'y réfléchir pour ce qui est de l'événement qui s'est produit en Angola, parce qu'elle s'est retrouvée prisonnière, prise dans un guet-apens de rebelles, et donc durant sa détention, elle a eu largement le temps de réfléchir à ce qui lui arrivait. Dans la deuxième expérience, ce qu'elle a vécu lors de sa mission au Mozambique, les choses iront au contraire très très vite, sur le moment, mais ensuite, puisque l'avion dans lequel elle se trouve sera bombardé, attaqué. Et là, les choses iront très vite. Mais par contre, lorsqu'elle se retrouvera sur un lit d'hôpital avec de multiples blessures, elle aura là aussi largement le temps d'y penser. Et en plus, sa réflexion, elle a voulu la pousser très loin, la réflexion sur la douleur, sur la souffrance, sur la peur de la mort engendrée par la souffrance. Et elle a voulu, elle aussi, nous transmettre cette réflexion pour peut-être montrer comment l'expérience des autres parfois nous aide à surmonter les étapes que l'on a à franchir. Alors tout de suite, elle nous raconte sa première mission qu'elle a vécue en Angola. Marie-Josée Burnier, infirmière au CICR.
Oui, je suis partie donc travailler avec le CICR en Angola et au Mozambique. L'Angola était ma deuxième mission. Et après 4 mois de travail dans le centre du pays, je suis tombée dans une embuscade avec un délégué et nous étions avec 4 véhicules de la Croix-Rouge. Et comme j'étais au bout de dans les derniers véhicules, j'ai été capturée par les soldats. Ça, c'était l'événement de l'Angola. Et au Mozambique, c'était 3 ans plus tard, lors d'une mission d'évaluation de la situation nutritionnelle, j'étais dans un petit avion avec seulement le pilote. On allait chercher des blessés parce qu'il y avait eu une attaque pendant la nuit dans une petite ville à une demi-heure de vol de la ville où nous avions la délégation. Et lorsque nous étions en train d'atterrir, la guérilla nous a tiré dessus et j'ai été blessée ainsi que le pilote. Ça, c'est les deux événements que j'ai vécu.
Alors, à partir de ces événements-là, bon, on va peut-être commencer au tout début. Quand vous êtes parti, vous avez su que vous alliez partir pour la toute première fois en mission pour le CICR, où le CICR intervient toujours dans des pays en guerre, donc il y a cette idée que le risque existe permanent. Est-ce que vous aviez déjà eu peur avant de partir dans cette première mission, sachant que vous alliez travailler dans un pays en guerre?
Non, je crois que pour, et particulièrement pour des jeunes Suisses, c'est très difficile de se rendre compte de ce qu'est un pays en guerre. Et même si on nous raconte des événements, même le fait de lire des journaux, de regarder la télévision, où on voit souvent des images de pays en guerre, c'est pas la même chose de le vivre et de le voir de l'extérieur. Donc avant de partir, pour moi, c'était quelque chose de très abstrait. En fait, je m'imaginais pas du tout dans une situation de guerre. Mais j'avais l'impression que soit je supporterais bien dès le départ et alors je continuerais, ou alors que j'allais mal réagir et que bon, je rentrerais. Et ce qui s'était passé, c'est que j'avais eu l'occasion de réfléchir à la mort. Bon, je suis infirmière de métier, donc j'avais déjà été confrontée à la mort d'autres personnes. Et lors d'un travail de diplôme à l'école d'infirmière, j'avais pas mal réfléchi sur la mort avec plusieurs collègues. Et je m'étais rendu compte que c'était quelque chose qui ne me faisait pas peur a priori, donc toujours subjectivement, sans l'avoir vécu. Et bon, je suis partie un peu avec cette idée. Mais c'était tout à fait sans expérience aucune. Bon, l'Angola, effectivement, a été très très violent, très dur, puisque je suis tombée dans une embuscade À un moment donné, même, je pensais être touchée par une balle, je pensais mourir. Ça a confirmé le fait que je n'avais pas peur de mourir. J'avais peur de souffrir plus que de mourir, de souffrir ou de mourir à petit feu, ou, enfin, je ne sais pas, avec beaucoup de souffrance. Mais la mort violente et brève ne me faisait pas peur. Et j'ai eu la chance, après avoir été enlevée, de vivre plutôt bien les 4 mois de captivité. Bon, pour différentes raisons, notamment parce que j'ai eu un relativement bon contact avec mes ravisseurs, parce que bon, j'avais réussi à me faire un peu une philosophie. Je m'étais préparée à y rester très longtemps, je me préparais un petit peu chaque fois à des événements difficiles, si bien que quand je suis rentrée d'Angola, je l'ai pris plutôt pour une expérience positive. Ça m'a... Le fait d'avoir passé 4 mois aussi a fait comme une espèce de parenthèse dans ma vie où j'ai dû réfléchir à beaucoup de choses fondamentales que je n'avais jamais pris le temps d'aborder parce qu'on est pris dans la routine de la vie. Et là, tout d'un coup, j'avais pas de livre, j'avais rien, pas de contact avec l'extérieur, je n'avais rien à faire. Donc j'ai beaucoup réfléchi et donc cette expérience d'Angola pour moi était positive. Si bien que quand je suis arrivée à Genève, ça a d'ailleurs beaucoup choqué ma famille, les journalistes m'ont demandé si je comptais repartir et j'ai dit oui. Parce que pour moi, c'était évident. Ce n'était pas du tout une expérience négative.
Et au moment où le mot Mozambique est sorti, donc vous saviez que vous alliez retrouver une situation plus ou moins semblable à celle de l'Angola, il n'y a pas eu peur à ce moment-là de se dire « je vais retomber dans une situation identique à celle de l'Angola, avec un nouveau risque d'enlèvement, ou avec plein d'autres risques en fait ».
Non, bon, il s'était passé 3 ans. Entre-temps, j'avais fait une mission à Timor-Est qui s'était très très bien passée. Et à l'époque, quand on m'a demandé de partir au Mozambique, en fait, c'était pendant les vacances universitaires. J'avais commencé des études à l'Institut d'études du développement à Genève. Et bon, c'était une mission de 2 mois. Et j'avais pas tellement réfléchi au problème du danger. Mais... quelque chose quand même juste avant le départ n'allait pas très bien. Je ne savais pas pourquoi j'avais plus tellement envie de partir, mais enfin tout était organisé, c'était difficile, je n'avais pas de raison de dire non. Et ça en fait m'est revenu après quand j'étais à l'hôpital, je me suis dit c'est vrai, j'aurais dû m'écouter, je n'aurais pas dû partir. Mais c'est un sentiment aussi très très subjectif et que je ne pouvais pas expliquer sur le moment, qui était plus ou moins inconscient, dont je me suis rendu compte un peu après. Alors, est-ce que je sentais quelque chose? J'en sais rien. Je ne saurais jamais, sûrement, mais probablement que je suis partie avec un sentiment. Non, je voyais plutôt mon travail. Le reste, j'y pensais pas tellement, en fait. Bon, disons que dans une embuscade, on n'arrête pas le camion, on lui tire dessus. Donc, en fait, dans les deux cas, autant en Angola qu'au Mozambique, ça a été... tellement, enfin, je crois que bon, soit on s'attend à ce genre de situation et alors on ne part pas parce que si on s'y attend trop, si on se l'imagine trop précisément, c'est insupportable. Soit alors au moment où ça arrive, on ne s'attend vraiment pas et c'est, enfin, il faut quelques secondes pour se rendre compte des choses qui se passent. Et pendant l'embuscade, je dois dire que c'était, enfin, peut-être c'est la déformation aussi de notre société où on voit tellement de films et des choses comme ça, mais j'avais l'impression d'être spectatrice d'un film qu'on aurait pu voir au cinéma. On était sur une petite route de campagne, il y avait des hautes herbes comme il y en a beaucoup en Afrique, et tout d'un coup des soldats qui sortent de ces herbes en courant, des coups de feu, c'était vraiment irréel. Il m'a fallu quelques secondes pour me rendre compte de ce qui arrivait. Et bon, le chauffeur qui était avec moi a réussi à s'enfuir. Et moi, j'ai essayé de m'enfuir avec la voiture parce que j'avais l'impression que ça me protégeait relativement plus que de courir comme ça sur la route. Donc, j'ai essayé de reculer avec la voiture. Et à ce moment-là, les guerriers ont commencé à me tirer dessus. Excusez-moi. Et à ce moment-là, le pare-brise de mon véhicule a sauté, enfin, par les balles. Et j'ai eu beaucoup de sang sur le visage, en fait j'avais des coupures, et à ce moment-là je me suis dit bon c'est fini, je ne peux plus rien faire, c'est fini. Et vraiment, mais j'ai pas eu, comme on parle souvent, qu'on revoit toute sa vie ou qu'on revoit des choses comme ça, c'était au contraire une espèce de détachement, de me dire bon ben voilà.
Mais c'est fini dans le sens je vais mourir.
Oui, oui tout à fait, oui. Mais complètement détaché et absolument calme, enfin, ça j'ai jamais compris pourquoi. Et à ce moment-là, j'ai arrêté la voiture et les guerriers sont venus vers moi. Et là, à ce moment-là, je suis descendue du véhicule et j'étais absolument calme. Pour moi, c'était fini, il n'y avait plus rien à faire, j'allais mourir.
Mais oui, vous avez une attitude menaçante à ce moment-là, c'est-à-dire que ce n'est pas un enlèvement gentil. Ils ne vous ont pas proposé de vous soigner et de vous emmener. C'était quand même agressif à cet endroit-là.
Non, pas. Oui, bien sûr, un enlèvement est toujours agressif, mais non, la première chose qu'ils se sont inquiétés, c'est est-ce que vous êtes blessé? Et puis j'ai dit, je ne sais pas, je crois que je vais mourir, ou je ne me souviens pas exactement ce que je leur ai dit. Après, ils m'ont dit, mais il faut que tu viennes avec nous. Et j'ai commencé à parlementer avec eux parce qu'il me semblait que c'était une erreur de leur part. Enfin, on travaillait dans cette zone depuis quelques mois et il semblait qu'on n'avait pas de problème avec la guérilla. Donc pour moi, c'était une erreur et j'avais l'impression que si je partais avec eux, ça allait compliquer la situation, etc. Donc j'essayais de discuter avec eux, mais de manière tout à fait calme. Bon, la peur que j'avais, c'est qu'il y avait des coups de feu qui s'échangeaient et à un moment donné, je me souviens, on s'est tous jetés à plat ventre. Ils m'ont dit « Non, relève-toi, viens avec nous ». Et après, je suis partie avec eux. Mais disons que ça se passe très, très vite et je vous dis, c'est un peu irréel. On se sent, on est acteur à la fois, mais presque spectateur. Enfin, et vraiment, c'est un moment dont je me souviens très, très, très bien, mais où je me souviens avoir été très très calme. Il y a aussi une chose, c'est qu'au moment où je suis descendue de la voiture, je me suis dit, bon, les guerriers étaient très énervés, ils étaient en pleine attaque en fait, et je me suis dit, il ne faut surtout pas montrer de la faiblesse, surtout pas pleurer, ou comme ça, parce qu'ils vont s'énerver. Et peut-être que c'est ça qui m'a aidée à garder mon calme, je ne sais pas.
Alors bon, là, il y a le moment de l'enlèvement, et puis après, bon, il y a une marche qui va durer pendant 4 mois. Alors là, je pense qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui se passent dans la tête. Bon, d'abord, il y a l'environnement qui doit aussi inquiéter pas mal, l'attitude des guerrières autour de vous. Et puis, je ne sais pas, par exemple, des survols de l'aviation, de l'armée, enfin, plein d'événements extérieurs qui peuvent influencer sur le comportement. Alors là, si on peut... Puis aussi, peut-être, vous ne saviez pas ce qu'ils allaient faire de vous. Enfin, je ne sais pas si vous l'ont dit, mais si à un moment donné, vous dites, qu'est-ce qui va m'arriver, quoi.
Donc oui, ce qui a été le plus dur les premières heures, c'est que, bon, d'abord je ne savais pas très bien qui ils étaient, parce que dans ces pays, très souvent, les soldats n'ont pas des uniformes complets, donc c'est un peu mélangé, il y a toutes sortes de couleurs et autres, donc on n'est jamais sûr à qui on a affaire. Et puis, il faut bien vous imaginer qu'après cet enlèvement, nous sommes partis, donc j'étais seule, parce que les autres personnes donc, du convoi avaient pu s'échapper, donc j'étais seule avec une quarantaine de guerrieros. Et nous avons marché, donc ça s'est passé vers 9h30 du matin, et nous avons marché jusqu'à la nuit, je ne sais pas à quelle heure c'était, je pense vers 10h du soir, dans la forêt. Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, ça a été un des moments les plus durs, moins intense, parce que c'était plus long dans le temps, mais toute cette journée-là, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de moi et où est-ce qu'ils m'amènent? Et j'ai demandé au responsable, et il m'a dit, on va t'amener dans notre camp. Et moi, je me suis imaginée, je me suis dit, ça y est, je vais me retrouver ce soir dans un camp où il y aura, je ne sais pas combien, de centaines de soldats. Ça va être horrible, peut-être qu'ils vont me torturer. Enfin, vraiment, et là, je me suis préparée vraiment au pire. Je me suis dit, bon, si, quoi qu'il arrive, je ne veux pas, je ne sais pas, j'ai repensé à des expériences de gens qui ont été marqués après pour toute leur vie. Et je me suis dit, si je m'en sors, je ne veux pas traîner ça toute ma vie. Je ne veux pas que ça me marque à ce point-là. Je me suis dit, si ça m'arrive, j'essaierai de me détacher et que ce ne soit pas moi qui soit touchée.
Cécile Kayirebwa, une chanteuse rwandaise dans Remue Ménage, Radio Zone 93.8. Nous sommes en compagnie de Marie-Josée Burnier qui évoque la peur de mourir et la peur de souffrir.
Nanjenda jorondiro kwa nimire Awa humongu wa verwa ninyindi veiller et notre aide.